Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui commence et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, deux propositions de loi combattues ou défendues par des élus locaux, une interview pour annoncer une projection débat pour la liberté de la presse et en soutien à un journaliste franco-afghan. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage à la rencontre de l'association Zelidja qui vient d'attribuer des bourses de voyage à John Breton. Et puis une recommandation, c'est le lancement d'un livre sur la nourriture en prison. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Comme chaque jour, on commence avec une info retenue pour vous. Là, deux propositions de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec une accroche locale, vous allez voir. On commence par prendre la direction du Sénat, où a été adoptée en première lecture, mardi 23 mai, une proposition de loi. Son nom, choc de compétitivité en faveur de la ferme France. Une ambition affichée, c'est de rendre de la compétitivité et de l'attractivité à toutes les agricultures, et en encourageant, en deuxième partie de phrase, le monde agricole a innové dans ses pratiques et en les accompagnant dans les transitions. Le sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine, Daniel Salmon, a voté contre cette proposition. Il voit dans ce texte de dangereuses régressions environnementales et sociales. Épandage des pesticides par drone, libéralisation de la vente des produits phytosanitaires, affaiblissement des critères de qualité des produits dans la restauration collective ou encore remise en cause du rôle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Des mesures qui créeraient un détricotage systématique de la réglementation nationale et européenne. Deuxième point, une proposition de loi plus progressiste déposée il y a deux semaines par deux députés, dont Mickaël Boulou, élu Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale pour la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Ce dernier, avec Fatia Keloua-Hachi, souhaite créer un congé menstruel. Une femme avec des règles douloureuses pourrait bénéficier de 2 jours de congé chaque mois et ce sans jour de carence, à condition toutefois d'avoir une ordonnance de son médecin à renouveler une fois par an. On suivra ce dossier. Après l'info du jour, on passe à une interview. Carole André et Loïsa Hall, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente alors Carole André, vous êtes en studio, vous êtes présidente du Club de la Presse de Bretagne et Loïsa, on vous joint par téléphone, vous êtes vous membre du comité de soutien de Mortaza qu'on va présenter dans un instant. Ensemble, vous organisez une journée de soutien à ce journaliste et puis à la liberté de la presse plus généralement. Ça se passe mardi 30 mai de 12h30 à 20h30 d'un côté au Club de la Presse de Bretagne pour une exposition, on va y venir, et puis à l'Institut d'études politiques Sciences Po Rennes. On commence par représenter le Club de la Presse de Bretagne en deux mots, ses équipes, son projet, Carole André.
Oui, le Club de la Presse, en fait, c'est une association qui regroupe des journalistes et des professionnels de la communication. C'est une association de professionnels. L'idée, à la base, c'est simplement d'être une association amicale. C'était l'idée de base. Mais en fait, au fil du temps, on a organisé des conférences, des animations, des formations pour les journalistes et les professionnels. Et puis, au fil du temps également, on s'est impliqué plus dans une démarche militante de protection, enfin en tout cas
de soutien
à la liberté de la presse et au droit d'informer.
Il y a combien de professionnels qui adhèrent aujourd'hui au Club de la Presse de Bretagne ?
On est à peu près 400 dans toute la Bretagne, avec en gros la moitié de journalistes et la moitié de professionnels de la communication.
Je me tourne vers Loïsa pour parler de ce comité de soutien à Mortaza. Mortaza Behboudi, on le présente, un journaliste afghan qui s'est réfugié en France il y a quelques années et qui avait des attaches en Bretagne.
Oui, c'est ça. Moi, je fais partie du comité de soutien Mortaza Douarnenez-Bretagne, qui est né dans la ville de Douarnenez, pour soutenir ce journaliste qui est emprisonné depuis le 7 janvier maintenant, en Afghanistan. Et c'était quelqu'un qui avait des fortes attaches dans la ville de Douarnenez, avec beaucoup d'associations, de personnes là-bas. Donc c'est pour ça que le comité est né là-bas.
Pour comprendre sa détention depuis 150 jours maintenant, il faut un peu détailler la situation. Donc en 2015, Mortaza Behboudi s'est réfugié en France. Il est retourné en Afghanistan au début de l'année dans le cadre de son activité de journaliste.
Oui, c'est ça. Il était en reportage en Afghanistan quand il a été arrêté. Donc au début de l'année, ça fait plus de 5 mois maintenant. Il a été arrêté par les talibans 48 heures après être arrivé et on l'accuse d'espionnage, mais voilà, il y a des accusations qui sont totalement infondées puisque c'est simplement un journaliste qui faisait son travail pour nous informer sur l'Afghanistan comme il l'a fait ces dernières années à travers ses photos, à travers ses reportages, plein de médias français. Donc on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui depuis et voilà, la situation est très compliquée.
On parle donc d'un journaliste indépendant. Je ne sais pas si vous pensez à certains des titres pour lesquels il a travaillé, qu'on peut donner en exemple aux auditeurs.
Oui, il a travaillé pour vraiment beaucoup de titres, pour Mediapart, pour RFI, pour plein de médias nationaux. Il a aussi fondé un média qui s'appelle Getty News. C'est quelqu'un qui a commencé vraiment à faire du journalisme. Il avait 15-16 ans, donc il est passionné. C'est un journaliste acharné qui n'a pas peur de prendre des risques pour nous informer. Et voilà, c'est une personnalité vraiment hors du commun et un journaliste qui a été très précieux aussi pour beaucoup de journalistes français qui ont voulu aller travailler en Afghanistan puisque lui, il pouvait aussi les aider à se rendre sur place. Et voilà, il avait un rôle aussi crucial de ce point de vue-là.
Quand Mortaza Behboudi est retourné en Afghanistan, ça faisait un an et demi que l'Afghanistan avait été repris, que le pouvoir avait été repris par les talibans. Vous dites que vous avez peu de nouvelles, c'est peu de nouvelles ou pas de nouvelles du tout depuis le début de sa détention ?
On a quelques nouvelles quand même. On sait qu'il est en bonne santé, on sait qu'il est toujours vivant, c'est pas rien. On sait aussi qu'il est au courant qu'il y a un mouvement de solidarité qui s'organise autour de lui et qu'il sait que c'est quelque chose qui va être très précieux pour obtenir sa libération. Et on sait aussi que les nouvelles sont pas très bonnes et que sa détention risque de durer encore longtemps. Voilà, mais on n'en sait pas beaucoup plus.
Il a été créé quand, le comité de soutien dont vous faites partie, donc comité de soutien lancé à Douarnenez, ici en Bretagne, il a été créé quand ?
Je me souviens plus de la date précise, il me semble que ça devait être en février parce qu'on a appris ses détentions un mois après, au moment où les négociations pour sa libération échouaient. Et donc il y a ce comité de soutien à Douarnenez, il y a aussi un comité de soutien qui est coordonné par Reporters sans frontières et dans lesquels on retrouve les 15 rédactions pour lesquelles il a travaillé en France, voilà, et qui ont lancé un appel pour demander sa libération.
Et pour ce qui est du comité de soutien Bretagne, vous êtes combien de membres rassemblés aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas combien de membres on est précisément. Il y a une page Facebook du comité où il y a maintenant plus de 500 personnes qui suivent ces informations et cette mobilisation. Douarnenez, c'est une petite ville, hein, c'est moins de 15 000 habitants, mais la mobilisation, elle est vraiment très très forte. Il y a eu plusieurs événements et puis régulièrement, il y a des actions qui sont menées parce que c'est des gens voilà, qui n'ont pas oublié Mortaza et qui continuent vraiment de se mobiliser à fond pour lui. Voilà.
Il était venu dans quel cadre, vraiment dans ses activités de journaliste ? Il avait aussi, je crois, un engagement bénévole dans une association de Douarnenez ?
Oui, alors il était venu par le Festival de cinéma de Douarnenez, qui est en partenariat avec la Maison des journalistes à Paris, qui travaillait avec des journalistes réfugiés en France. Donc il était venu dans ce cadre-là et écrire des articles sur le festival, être bénévole pour l'événement. Et puis il a aussi travaillé beaucoup avec l'association Rhizome pour faire voilà de la médiation dans les écoles, raconter son parcours. Et voilà, il avait cette envie de transmettre ce qu'il savait, ce qu'il avait vécu, parce qu'il a une vie vraiment hors du commun. Et voilà, il a tissé plein de liens avec des habitants de Douarnenez de cette manière.
Ce combat pour la liberté de la presse, il trouve un écho ici dans la région Bretagne, alors à une autre échelle évidemment, mais on ne peut pas ne pas penser aux intimidations envers des journalistes, notamment sur des sujets environnementaux, mais aussi autour des personnes exilées. Carole André, présidente du Club de la Presse, quel écho trouve ce combat ici en Bretagne ?
Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout, bien sûr, sur les mêmes dimensions. En Bretagne, on n'a pas eu de journalistes emprisonnés, évidemment. Par contre, les menaces existent, les intimidations, comme vous l'avez dit, dans les sujets environnementaux, les sujets liés à l'agriculture. Le Club de la Presse s'est mobilisé déjà à plusieurs reprises pour nos confrères et nos consoeurs qui ont été menacés dans le cadre d'enquêtes sur des activités agricoles. On a eu aussi nos confrères de la rédaction du POER à Carhaix qui ont été menacés par des groupuscules d'extrême droite. Le Club de la Presse s'est mobilisé aussi pour soutenir nos confrères et nos consoeurs du Finistère. En fait, la liberté de la presse, elle se protège chaque jour et les petites attaques sont autant de petites piques dans la liberté de la presse, dans le droit d'informer qui est mis à mal, même dans nos sociétés démocratiques où évidemment les journalistes ont le droit de travailler et le font. Mais chaque jour, il y a des petites attaques et beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup de pression. C'est plus des pressions, des intimidations que de véritables menaces. Enfin, quoi que dans le cas du POER, c'était clairement des menaces.
Et dans le cas de Morgane Large aussi, pour la citer, journaliste donc à Radio Crèze-Brèze, qui en un an a connu deux déboulonnages sur son véhicule, entre autres intimidations. Elle, c'était pour son travail sur le sujet de l'agroalimentaire. Et puis le POER, c'était hebdomadaire qui est installé à Carhaix en lien avec, je crois, le traitement d'un sujet sur les personnes migrantes, non ?
Oui, en fait, ils avaient traité des sujets. Il y avait un centre de migrants qui devait ouvrir à Calac, dans un petit village, en fait, du centre Bretagne. Et naturellement, c'était sur le secteur du POER. Ils avaient traité l'information à plusieurs reprises, vu que c'était quelque chose qui faisait beaucoup parler dans le coin. Et ils ont été menacés suite à leur reportage sur ce sujet-là.
C'est l'occasion de rappeler que la France n'est pas la mieux classée sur le sujet de la liberté de la presse. D'après le classement, alors qui revient régulièrement, de Reporters sans frontières, la France est au 24e échelon. Voilà, elle n'est pas en tête de classement. Évidemment, l'Afghanistan, on le retrouve bien plus loin dans le classement, ce pays. Je voulais juste dire un mot sur une autre forme, si c'est pas vraiment de l'intimidation, mais une autre forme d'entrave au métier de journaliste. Là aussi, en lien avec une actualité récente, on parle de la répression policière qui a été aussi dénoncée par le Club de la Presse de Bretagne au plus fort de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. On est d'accord pour dire que c'est une autre forme d'entrave. Il y a des journalistes qui ont été empêchés sur les lieux des manifestations, ici à Rennes, ailleurs en Bretagne.
Oui, clairement, clairement, nous on a eu des membres qui nous ont rapporté des arrachages de téléphones, d'appareils photos, des bousculades par les policiers.
Des insultes aussi.
Des insultes. On a alerté le préfet sur ces faits. Il nous a répondu en nous affirmant que pour lui, la liberté de la presse était importante et que c'était aussi aux journalistes de faire attention.
Il leur recommandait quand même de rester à distance. Il y avait quand même une petite remise en question de la responsabilité des journalistes aussi.
Oui, c'est ce que fait toujours la préfecture, c'est qu'ils sont d'accord, et on le sait, avec bien sûr le droit d'informer, mais ils estiment que les journalistes doivent quand même rester éloignés pour les manœuvres, pour que la police puisse faire ses manœuvres de maintien de l'ordre.
Le conseil de la préfecture, suite à ces épisodes, donc là on parle du début de l'année 2023, c'était de porter plainte quand l'occasion se présentait pour les journalistes qui ont été victimes de certains actes là qu'on a évoqués. Aucune procédure n'a été lancée à votre connaissance
À ma connaissance, pas pour l'instant. Les journalistes qu'on a interrogés, ils nous disaient qu'ils voyaient pas tellement l'intérêt de porter plainte, sachant que leur plainte avait très peu de chances d'aboutir et que ça allait être du temps, beaucoup de temps passé pour pas grand-chose.
On arrive à l'événement qui nous intéresse et que vous organisez ensemble, donc le comité de soutien de Mortaza et puis le Club de la Presse de Bretagne. Ça se passe mardi 30 mai à partir du midi et puis jusqu'en soirée. La question que vous vous posez, c'est comment faire face à ces menaces collectivement, qu'on soit journaliste ou citoyen. Moi, ce qui me m'interpelle, c'est que le silence sur ces sujets du côté politique est assez assourdissant. Qu'est-ce qu'on fait justement collectivement gens avant tout informés, c'est d'abord...
Oui, c'est ça, on en parle autour de nous, on parle, nous on est journalistes, on en parle à nos proches, à nos amis, mais on continue de s'informer, on continue de s'intéresser à ce qui se passe, à la politique, et surtout on essaye de ne pas minimiser les petites attaques. Parce que effectivement, comme on l'a déjà dit, on n'est pas du tout dans le cas de l'Afghanistan. On n'a pas de talibans au pouvoir, mais des menaces, des insinuations, c'est vraiment des choses qui empêchent les journalistes de faire leur travail sereinement, qui peut en arrêter certains, de se dire oh, ce sujet-là, je ne vais pas le traiter parce que vu ce qui m'attend derrière, ça va être tellement la galère, finalement, je ne vais pas en parler. Et c'est ce que ces groupuscules qui nous menacent veulent, nous faire taire par la pression en fait, de la menace et de l'intimidation.
Au programme du mardi 30 mai, il y aura d'abord un temps de vernissage d'une exposition à retrouver donc au Club de la Presse de Bretagne. On redit où vous êtes installé parce que cette expo, on pourra la voir au-delà du mardi 30 mai.
Oui, c'est ça. On est au 9 rue Martenot à Rennes, donc dans le centre-ville. On est juste à côté de la préfecture de la rue Martenot. Le club est ouvert aux gens qui veulent voir l'exposition. C'est une très belle expo de photos sur l'Afghanistan. C'est très touchant. Vraiment un beau reportage à voir.
À travers l'Afghanistan sous les talibans, donc c'est une exposition photographique qui vivra son vernissage de 12h30 à 14h le mardi 30 mai. Et ce sont donc les photographies de la journaliste Rachida El Azouzi qui travaille pour Mediapart et qui a travaillé avec Mortaza Behboudi, ce journaliste franco-afghan qui est détenu par les talibans aujourd'hui. On arrive à la projection où là encore c'est le travail de journaliste qui va être mis en lumière. Loïsa Al, je vous laisse nous dire ce qui va se passer en soirée à partir de 18h. Là, on prend la direction de l'Institut d'études politiques Sciences Po Rennes.
Oui, c'est ça. À partir de 18h, on va montrer un extrait du documentaire « Ils ne nous effaceront pas » qui a été réalisé par Rachida El Azouzi de Mediapart et Mortaza Behboudi, qui est toujours en prison depuis plus de 5 mois maintenant en Afghanistan. Et donc c'est un documentaire sur le combat des femmes afghanes pour leurs droits. Et il y a notamment plusieurs témoignages de femmes journalistes qui sont menacées dans leur travail. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ces témoignages concrets là du terrain afghan. Et ensuite, on aura une conférence avec 4 intervenants, donc toujours la journaliste Rachida El Azouzi. On aura aussi Antoine Bernard, qui est directeur adjoint de Reporters sans frontières. Et on aura le reporter de guerre Philippe Rochaud, qui connaît très bien Mortaza et qui a travaillé sur beaucoup de terrains de guerre au Moyen-Orient, en Afghanistan. Et puis, on aura aussi Julie Laloy-Geffroy, qui est journaliste notamment pour le média d'enquête breton Span, et qui pourra nous parler aussi de la situation en Bretagne pour les journalistes. Donc c'est à la fois une conférence pour apprendre des choses sur les menaces qui pèsent sur les journalistes en Bretagne et dans le monde, sur quelles solutions aussi mettre en place pour qu'ils puissent faire leur travail, pour qu'on puisse être informés. Et puis c'est aussi une façon de montrer du soutien à la fois à tous ces journalistes, à la liberté de la presse et à Mortaza Behboudi qui est toujours emprisonnée depuis le 7 janvier. Et on sait que la solidarité est vraiment importante pour qu'on puisse obtenir sa libération.
Je complète juste sur Splan, ce média d'enquête indépendant breton qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises dans l'émission d'information locale et qui maintenant a pu publier plusieurs enquêtes, pas mal sur les sujets qui sont liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Je vous représente toutes les deux, Carole André, présidente du Club de la Presse de Bretagne, et Loïsa Hall, membre du comité de soutien de Mortaza. Vous organisez ensemble une journée de soutien à ce journaliste franco-afghan qui est détenu depuis 5 mois par les talibans, journée de soutien aussi à la liberté de la presse en général. Ça se passe donc mardi 30 mai. Sur le temps du midi, il y aura le vernissage de l'exposition qu'on a évoquée. Et puis à partir de 18h, une soirée projection et débat qui se déroule à l'Institut d'études politiques Sciences Po Rennes. Pour plus d'infos, éventuellement pour s'inscrire, même si c'est pas obligatoire, il y a le site internet clubpresse-bretagne.com. Et puis on retrouve le comité de soutien en ligne sur une page Facebook qui lui est dédiée. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci.
Doppelganger par Teke Teke sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur musical. Le troisième extrait de l'album Agatha qui sortira le 9 juin chez Kill Rock Stars. Alors Agatha tient le titre de cet album. C'est un mot très profond pour parler de quelque chose de présent ou d'un reste de quelque chose qui n'est plus là. Et Teke Teke, si vous ne les connaissez pas, c'est ce groupe de psychorock japonais créé en 2007 et passé par les trans il y a quelques années. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou en ligne sur canalb.fr, on passe au reportage du jour. Et c'est un reportage pour donner envie aux 16-20 ans de tenter l'aventure Zelidja. Zelidja, c'est une association qui délivre des bourses de voyage de 900 à 1200 euros. Les lauréats peuvent ensuite partir en voyage solo avec un sujet d'étude en tête, durée minimum du séjour un mois. Ce vendredi 26 mai, 10 jeunes bretons ont décroché leur bourse et prendront la route des quatre coins du monde cet été. Pour plus d'infos, il y a le site internet zelidja.com.
Zelidja, c'est à la fois une association et une fondation qui propose des bourses de voyage à des jeunes entre 16 et 20 ans. Voyages qui doivent être effectués seuls pendant au minimum un mois, mais avec un projet d'étude. Et les jeunes ont toute liberté du choix du voyage, du pays, du sujet. He was in the bar down by the Thames, having a drink with some old friends. They just got back from traveling the world, and next year they were going again. Donc je suis Philippe Méraud et je suis délégué régional de Zelidja.
Ça existe depuis quand, Zelidja?
Alors ça existe depuis 1939. C'est une association entre un capitaliste, Jean Walter, et un socialiste, Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation nationale. Et c'est à ce moment-là que ça a été créé. Les délégations sont en général prises en main par des anciens Zelidja. Donc moi j'étais Zelidja en 67 et 69, et il y a à peu près une vingtaine d'années je pense, j'ai pris la succession de Jean-François Walter, qui lui était allé dans les années 50 en Afrique noire, sur les falaises de Bandiagara, et qui a tenu en main pendant 20 ans l'association Zelidja en Bretagne.
Quels souvenirs vous gardez de vos deux voyages ?
Un peu comme tous les jeunes, c'est des voyages qui sont fondateurs à la fois pour la façon de voyager. Parce que voyager seul, c'est une façon de rencontrer plein de gens à l'étranger. Et puis, il y a plein d'incidents, d'aventures qui arrivent, qui nous préparent à la suite. Et ça a même été fondateur dans le boulot que j'ai fait après, puisque j'ai été pris là où j'étais parce que j'étais un ancien boursier Zelidja.
Vous êtes parti où et puis avec quel objet d'étude ?
Alors moi je suis parti la première année au Spitsberg, ce qui est une île au nord de la Norvège, qui est norvégienne en partie, mais qui a aussi une concession russe, où j'étudiais les mines de charbon. Et la seconde année, je suis allé normalement en Libye, mais en Libye en fait il y a eu une révolution, il y a un certain colonel Kadhafi qui a pris le pouvoir, et donc en 69 j'ai donc été en Tunisie, j'ai changé mon projet, mais où j'étais étudié les pétroles en Tunisie.
Pour ce qui est de la délégation Bretagne de Zelidja, comment on peut la présenter aujourd'hui ? Il y a combien de jeunes qui partent chaque année ? Est-ce qu'il y a des spécificités un peu sur les projets qui sont menés ?
En tout cas, il y a une spécificité sur la dynamique des jeunes en Bretagne. On est une des délégations qui a le plus de candidats, et rapporté au nombre potentiel, on est largement au-dessus de toutes les autres régions françaises. Donc il y a effectivement une spécificité sur le dynamisme des jeunes. Les sujets évoluent d'année en année, hein, donc pendant longtemps il y a eu pas mal de sujets en Afrique. En Bretagne il y a beaucoup de sujets sur les cultures irlandaises, du Pays de Galles, tout ce qui était le monde celtique. Bon, actuellement il y a une réorientation sur l'Europe, parce que tous les jeunes ont une prise de conscience des problèmes de changement climatique, et il y a vraiment une notion de prendre en charge ça avec donc l'évaluation, par exemple, des crédits carbone, des voyages. D'ailleurs, chose qui va être au niveau national, qui va également être maintenant une condition des voyages déjà. Mais il y a également des voyageurs qui vont aller au Québec, au Mexique. Donc on a aussi, il n'y a pas de fermeture sur les voyages en avion.
Et de plus en plus de filles. Depuis quand est-ce que la tendance s'inverse ?
Alors, jusqu'aux années 70, c'était ouvert uniquement aux garçons. Au départ d'ailleurs uniquement aux garçons des lycées classiques. En 70, il y a eu une petite révolution, Zelidja a disparu et quand Zelidja renaît de ses cendres, c'est une association qui est maintenant ouverte aux femmes et nous avons actuellement, au niveau des candidats, 2/3 de femmes, 1/3 de garçons et au niveau des boursiers, 80% de femmes et 20% de garçons.
Là, on se retrouve à la fin du mois de mai, c'est le moment de l'attribution des bourses, c'est une fois par an, à chaque fois au printemps.
Le calendrier, c'est les jeunes déposent leur dossier avant le 15 février. Le jury a lieu au niveau des vacances de printemps, avant ou après. Le résultat, c'est début mai et les jeunes donc, peuvent partir maintenant. Donc on est à l'époque plutôt où les jeunes sont en train de peaufiner les derniers éléments de leur voyage. On demande aux jeunes de rentrer le 31 octobre, du moins de rentrer pour avoir le temps de rédiger un rapport. Puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au retour du voyage, ils doivent rendre à la fois un carnet de route qu'ils ont rédigé jour après jour, un rapport d'études, un rapport d'enquête qui répond aux thèmes qu'ils ont choisi, et puis un carnet de comptes, parce que c'est aussi un outil pédagogique pour leur apprendre à gérer son argent.
La catégorie d'âge, ça concerne les 16-21 ans, donc vraiment le début de l'âge adulte, voire encore des adolescents. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les mineurs ont tendance à être surprotégés peut-être. On les retrouve moins dans l'espace public, puis il y a un côté un peu sécuritaire, on peut avoir peur pour les adolescents. Est-ce que le projet Zelidja, il est encore perçu comme un peu fou par pas mal de gens, de laisser ou des adolescents ou des jeunes adultes partir seuls à l'étranger, parfois hors Europe.
Il y a 10 000 jeunes qui sont partis depuis que Zelidja existe, ils sont tous rentrés. Hein, donc, les jeunes que nous, on voit, sont des jeunes qui ont fait un choix, donc c'est des jeunes qui sont en général très autonomes déjà. Alors, depuis quelques années, on fait attention aux questions de sécurité, enfin, on met de plus en plus en garde les jeunes par rapport à ça. Il y a un groupe, le groupe SAFE, qui est un groupe qui a édité à ces jours-ci un manuel de conseils vis-à-vis des jeunes, filles ou garçons. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas se mettre en danger, hein. Mais on sait que beaucoup d'agressions, en fait, se font en famille, par exemple, et pas durant les voyages. Donc, le retour qu'on a, c'est qu'il y a, sur une centaine de jeunes, il y a un ou deux cas par an qui ont été problématiques, qui sont toujours résolus. Voilà, donc... Nous, on a une vision des jeunes qui sont extrêmement dynamiques et où il n'y a pas cette perception du danger extérieur.
Ma dernière question, c'est peut-être de vous laisser dire un mot sur la remise des prix à venir au début du mois de juin, durant laquelle il y a une Bretonne qui va être primée pour son voyage.
Le 8 juin, il y a la remise des prix à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Et donc, on aura Lou Anne Raven qui a fait deux voyages. Donc des voyages, je dirais, nature, hein, qui étaient dans les parcs en Norvège, le premier, et à la rencontre des trekkers dans les Alpes, le second voyage. Elle a eu un prix parce qu'elle a beaucoup évolué entre ces deux voyages, déjà. Et dans le second voyage, elle a fait des rencontres dont elle a très bien rendu compte dans un document audiovisuel qui était vraiment de très haute qualité et très riche au niveau humain. Donc c'est pour ça qu'elle a eu le Grand Prix Zelidja.
Alors moi c'est Marine, j'ai 31 ans et je suis une ancienne voyageuse qui aujourd'hui fait partie de la délégation Bretagne Zelidja.
Donc moi c'est Rebecca et j'ai 22 ans, c'est mon VZ2, deuxième voyage Zelidja cet été.
Donc je m'appelle Loire, j'ai 19 ans et donc là je vais partir pour mon premier voyage Zelidja dans 5-6 jours là.
Alors, je suis partie en 2010 pour mon premier voyage en Argentine, d'avril à juin 2010, à la rencontre en fait des agriculteurs dans la cordillère des Andes et dans la partie plus tropicale près de la frontière brésilienne et du Paraguay. Et ensuite, l'année suivante, j'ai eu la chance d'avoir une deuxième bourse. Et là, je suis partie à New York pendant un mois pour découvrir en fait la ville de New York. Merci le soft power américain. Depuis le point de vue des habitants. Ça a vraiment été une découverte. J'avais pu partir avec le collège à l'époque en voyage de classe en 4e et en 3e. Mais là, c'était vraiment mon premier gros voyage, le premier voyage en solitaire et surtout à l'autre bout du monde, puisque en Argentine, je suis partie aussi sans téléphone et sans ordinateur pour vivre pleinement mon voyage. J'ai préparé mon projet avec tellement de soin et j'ai fait tellement de recherches et j'ai postulé à d'autres bourses que Zelidja pour pouvoir avoir les moyens de partir, que quoi qu'il arrive, j'avais décidé que je partirais. Donc à partir du moment où j'ai acheté mon billet d'avion, ça a été la guerre froide à la maison. Pendant 2 mois, ça a été très tendu, mais moi, j'avais confiance en moi et en mon projet.
Mon premier projet, c'était sur la transmission des langues et cultures de Bretagne. Donc c'est parti un peu d'une initiative personnelle où je suis bretonne, mais je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose à la culture bretonne. Et je me suis intéressée aux canaux un peu de transmission de cette culture. Donc j'ai rencontré des associations, des personnes un peu partout en Bretagne pendant un mois. C'était en été 2021 et j'ai fait un tour de Bretagne. J'ai commencé par le festival de Cornouailles à Quimper. Et ensuite, je suis montée vers la côte nord. J'ai fait pas mal justement de fest-noz, de festivals et puis des rencontres un peu à l'improviste. Le deuxième projet, donc c'est cet été, je vais partir en Espagne puis au Maroc. Je vais faire les deux pays pour rencontrer des femmes qui font de la musique et essayer de voir comment elles font de la musique, quelles problématiques elles rencontrent, est-ce qu'il y a des freins, des discriminations à la pratique musicale dans ces deux pays. C'est un projet que j'avais depuis longtemps. Au moment où j'ai fait la démarche, en fait, j'ai parlé autour de moi du fait que je voulais voyager seule. Et c'est un peu comme ça justement que j'ai entendu parler de Zelidia. Et le fait d'avoir fait un premier voyage, bah, ça me conforte pour le deuxième.
Alors je pars au Québec du coup, ouais, au Canada. J'ai intitulé ça « La rencontre des femmes autochtones du Québec ». Et ouais, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir rencontrer des femmes. Alors là-bas, il y a vraiment différentes communautés autochtones, mais de pouvoir rencontrer ces femmes qui ont forcément différents profils. Certaines vont plus lutter pour leurs droits, pour mettre en lumière leur situation, alors que d'autres vont juste voir que signifie pour elles que d'être une femme autochtone dans cette société d'aujourd'hui du Canada, quoi. J'ai toujours eu un peu l'envie de partir, mais par contre la thématique, c'est pas quelque chose qui me passionne depuis 10 ans, c'est justement quelque chose que j'ai découvert récemment. Et ça m'a plutôt frappé le fait qu'on en entend très peu parler en fait. Et le fait que vraiment en Bretagne ou même en France, on ne connaisse pas la situation là-bas ou même le terme autochtone qui reste très abstrait pour nous, ça m'a donné envie justement de plus aller découvrir ça. C'est vrai que j'ai fait Interrail l'année dernière, donc j'étais partie toute seule en Europe. Et même si c'était moins longtemps, du coup c'est ce qui m'a donné aussi envie de repartir toute seule là. Donc non, c'est pas la première fois, mais bon, c'est différent. Là c'est à l'autre bout de la planète, et puis là il y a vraiment un sujet d'étude quoi, qu'il n'y avait pas l'année dernière où c'était du tourisme pur.
S'il fallait faire la balance des difficultés que vous avez rencontrées, mais de ce que ça vous a apporté dans votre tête, là, 10 ans après, il reste quoi ?
Alors, que des bons souvenirs. Je me rappelle au début, avant mon premier voyage, et surtout les premiers jours où je suis arrivée en Argentine, de la difficulté à arriver seule, de me demander comment j'allais prendre contact avec les gens, comment j'allais faire puisque j'allais dormir chez l'habitant, et découvrir en fait le travail des gens chez qui j'allais. La difficulté d'arriver dans un nouveau pays où on n'a strictement rien prévu, puisque moi je suis partie, je savais juste où je dormais la première nuit, et après j'ai pris une carte à l'hôtel, j'ai mis mon doigt sur la carte au hasard, et j'ai pris un bus pour rejoindre cette zone. Donc quand je suis arrivée en pleine cordillère des Andes à 18 ans, dans un petit village où il y avait 2000 habitants, là pour le coup, ça a été vraiment la première peur du voyage. Et après en fait tout s'est déroulé naturellement, j'ai rencontré énormément de personnes, des gens très sympas. J'ai pas eu de difficultés particulières pendant mes voyages, que ce soit en Argentine ou aux États-Unis. Et c'est une expérience qui m'a vraiment marquée et qui m'a aidée dans ma vie personnelle et professionnelle par la suite, puisque c'est quelque chose que quand on le mentionne sur un CV, ça appelle tout de suite un recruteur à vous parler de ça. Je sais qu'il y a plusieurs postes que j'ai eu par la suite où c'était grâce à Zelidia aussi. Ça me permet aujourd'hui de parler couramment aussi anglais et espagnol, alors que quand j'étais partie, j'avais un niveau scolaire lycée. Et ça m'a permis aussi de découvrir que j'étais capable de faire des choses par moi-même, d'en être fière, d'organiser, de gérer même des imprévus. Les imprévus, ça peut être par exemple de faire du couchsurfing à New York, de rentrer à l'heure convenue avec notre hôte, et que l'hôte soit déjà endormi, et du coup de passer la nuit à la rue dans le quartier du Queens. Donc de chercher des plans B, des plans C, des plans D, et de finir dans le McDo de Times Square à consommer une boisson d'un litre en attendant le prochain métro pour essayer de retrouver notre hôte le lendemain.
Je pense que déjà, point de vue caractère, ça nous permet de nous affirmer un peu, de se faire confiance, de voir qu'on est capable de monter un projet seul de A à Z. Et à la fin, moi j'étais super fière de mon rendu, j'avais fait un documentaire sonore et voilà, de plein de chouettes rencontres, et j'ai appris beaucoup de choses, et ça m'a permis moi aussi de m'ouvrir plus à la culture bretonne, vu que c'était mon thème. J'ai fait plein de rencontres tout au long de l'année en fait, qui a suivi en lien avec cette découverte de la culture bretonne. Je me suis mise à la danse bretonne, voilà.
Ce qui me fait peur en partant seule, c'est même pas les dangers sécuritaires ou ce genre de choses, c'est plutôt le fait de pas réussir à aller à la rencontre des autres quand j'aurais aimé. Enfin, il y a des périodes où on a envie d'être seule dans le voyage seul, et il y a des périodes où on a envie de passer une soirée avec des gens ou de voilà d'aller vers d'autres groupes. Et suivant le caractère, enfin moi c'est pas toujours quelque chose qui vient facilement, et du coup ça peut être ça un peu la difficulté qui vient quand on voyage seul, je dirais. Je sais quelle ville je veux faire. Après, je veux pas programmer tout non plus. Enfin, j'essaye de garder une part de liberté parce que je me dis que justement le voyage Zelidja, c'est l'esprit de Zelidja aussi, de se laisser une part d'aventure.
Et alors, à quelques jours là du départ, vous êtes dans quel état d'esprit ? Il y a des appréhensions, tout est prêt
Ouais, bah j'ai toujours un peu peur parce que il y a un peu deux parties de moi. Il y a la partie qui planifie les projets, puis il y a la partie qui doit les réaliser après et qui a un peu de mal à assumer. Mais en même temps, à chaque fois, je suis ravie de le faire. Donc non, je suis contente, mais voilà, forcément, avant le départ, c'est un peu de l'appréhension. Et puis, il y a une petite part de motivation, mais elle se fait discrète pour l'instant. Quoi.
Transgénital.
Wake Up, nous dit la femme, un morceau qu'on retrouve sur l'album Psychotropical Berlin. C'est sorti en 2013 sur le label Barclay. C'était le premier des trois disques de la femme, un groupe avec deux piliers qui nous viennent de Biarritz et puis des membres qui vont et viennent au fil des années. Leur rock est teinté de surf music, en tout cas au lancement, mais a suivi des rythmes hispaniques sur leur dernier album sorti en 2022. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B. On poursuit et termine avec la recommandation du jour. Pour la recommandation du jour, je vous conseille d'aller faire un tour à une soirée de lancement de livres en compagnie donc d'une autrice et qui est rennaise. Ça se passe ce vendredi 26 mai à partir de 19h et jusqu'à 22h dans le bar à vin Rewind qui est situé rue de la Chalotais ici à Rennes. Alors Lucie Inland, elle est journaliste indépendante. Elle collabore avec différents médias dont Slate et est aussi engagée dans un collectif féministe. Ça nous plaît plutôt bien ça. Et elle publie aujourd'hui son premier ouvrage aux éditions Nourriture Fut, son titre Surveiller et nourrir. Dans cette enquête, elle interroge ce que les détenus trouvent dans leur assiette, qu'ils décident, pourquoi et comment, en France, mais aussi aux États-Unis, pays dont la population carcérale est la plus importante au monde et population qui risque encore dans une trentaine d'États la peine de mort. En prison, la nourriture, c'est à la fois une absolue nécessité, un passe-temps, une perspective d'avenir, mais aussi un moyen de lutte, un outil de punition ou même un objet de pop culture. Mais c'est surtout un enjeu essentiel pour celui ou celle qui est enfermé. Lucie Inland, dans son livre, rassemble connaissances théoriques, travaux de recherche et témoignages concrets pour dépasser les idées reçues sur ce que la prison a dans le ventre, avec cette image d'Épinal du dernier repas du condamné, image à démonter. Plus d'infos sur cette soirée à travers un événement Facebook en ligne donc. L'arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.